Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ah oui, tiens.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une saga qui va dépérir au fil de ses opus. Mais dans l'espace, personne ne m'entendra râler. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saga Alien. Au commencement, il y a Dan O'Bannon, jeune scénariste américain, à son actif un seul film dans lequel il joue également, Dark Star, réalisé par John Carpenter en 1974. Il est alors contacté par Alejandro Jodorowsky pour participer au projet de film Dune. Durant la préparation du film, O'Bannon rencontre Hans-Rudi Giger, un artiste plasticien suisse. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Le film ne se fera pas, dommage, surtout quand on voit l'équipe artistique embarquée dans cette aventure. Notre scénariste décide donc de réécrire le scénario de Dark Star pour en faire une version plus ambitieuse et plus terrifique. En effet, dans Dark Star, le méchant est incarné par une sorte de gros ballon de plage. Voilà, voilà. Cela va donner le script Starbeast, vite rebaptisé Alien. Après de multiples turpitudes, le scénario arrive à maturité et c'est Ridley Scott, un jeune réalisateur, qui va s'y coller. Le film sort en septembre 1979. Bon alors, ça raconte quoi Alien ? Nous sommes en 2122, à bord du cargo Nostromo qui transporte une installation de forage en direction de la Terre. L'équipage est en hibernation, mais l'ordinateur de bord, Maman, reçoit un signal de la planète LV-426 et réveille tout le monde. Le vaisseau a pour ordre de se dérouter et enquêter sur l'origine du signal. Ce qui ne plaît pas à tout le monde. Certains membres de l'équipage rechignent, prétextant que cette mission ne fait pas partie de leur mission. Mais quand on leur dit qu'ils ne seront payés que s'ils accomplissent ladite mission, voilà donc 3 des 7 équipiers en prospection sur la surface de la planète. Ils ne vont pas tarder à trouver un vaisseau extraterrestre. Dans l'univers d'Alien, aucun contact ne semble avoir été établi précédemment avec des civilisations extraterrestres. Mais les personnages ne semblent pas totalement surpris. Peut-être qu'en 2122, le concept de vie extraterrestre a été assimilé et qu'une rencontre interespèce ne sera qu'une question de temps. Toujours est-il que les 3 enquêteurs entrent dans le vaisseau et découvrent, entre autres, des cadavres et une salle pleine d'œufs. C'est à ce moment que tu vas commencer à partir en sucette. Un des membres d'équipage se penche près d'un des œufs et celui-ci s'ouvre lentement. Une créature en surgit à la vitesse de l'éclair, se colle au casque du malheureux, en fait fondre la visière et s'agrippe à son visage. Ramené en catastrophe à bord du Nostromo, il est comme par miracle encore vivant. Mais la bestiole est toujours collée à son visage. La créature, un facehugger comme on l'appelle dans l'univers d'Alien, va finalement se décrocher et le pauvre homme en sera quitte pour une belle frayeur. Quelques heures plus tard, alors que tout le monde est réuni pour déjeuner et rigole de cette péripétie, le miraculé est pris de convulsions et s'écroule sur la table. Le reste de l'équipage, horrifié, voit une espèce de larve lui éventrer la cage thoracique, le menacer d'un cri et fuir à toute vitesse avant que quelqu'un n'ait eu le temps de réagir. Bah, Alors, c'est pas tout ça, mais maintenant il va falloir la retrouver, la petite chose. Va alors commencer un jeu du chat et de la souris dans les coursives du vaisseau avec des armes rudimentaires et des lance-flammes improvisées. Sauf que le chat, ce n'est plus l'équipage. La larve, elle a muté. Et ça n'a rien à voir avec une chenille devenue papillon. Maintenant, leur ennemi mesure environ 2 mètres de haut. Je pense qu'il est temps qu'on fasse les présentations avec le xénomorphe. De loin les présentations, car une rencontre avec lui se solde très souvent par votre passage de Via Trepa. Il s'agit d'un animal biomécanique, taillé pour la lutte au corps à corps, et d'une très grande férocité. S'il n'est pas invincible, un armement moderne en vient à bout, il est passé maître dans l'art du guet-apens. C'est une créature bipède, quand sa gestation s'est faite dans un humain en tout cas, globalement anthropomorphe, c'est-à-dire qu'il ressemble à un humain dans son architecture générale. Deux bras, deux jambes, mais aussi une queue préhensile et très dangereuse. Il mesure entre 2 mètres et 2 mètres 50 de haut, totalement noir, noir brillant, ou plutôt noir luisant. Il semble recouvert de bave, et il en sécrète abondamment. Son apparence paraît squelettique, mais transpire une puissance animale toujours à l'affût. Sa tête est à nul autre pareil. Le xénomorphe ne semble pas disposer des mêmes capteurs que l'on peut retrouver chez les mammifères en tout cas. Pas d'œil, pas d'oreille, pas de nez, ce qui n'empêche pas d'avoir une pleine appréhension de son environnement. La partie supérieure de son crâne se résume à un bulbe. Toutefois, pour décrire la tête de l'alien, un terme revient souvent, c'est celui de phallique. La ressemblance est frappante, si je puis dire. Si en plus on évoque la particularité de sa gueule, le verbiage sexuel est encore plus explicite. La langue de l'alien est-elle un sexe masculin en érection, ce qui ajoute encore au malaise de la rencontre, ce qui appuie aussi un des sous-textes du film, le viol. Déjà par la façon dont les victimes se font inséminer les embryons d'aliens. Une créature se colle à votre visage et vous fourre sa trompe au fond du gosier. Par la façon dont on devine la mort d'un des membres d'équipage féminin. Dans une scène, on voit la queue de l'alien s'immiscer entre les jambes de la malheureuse et hors champ, elle pousse un hurlement glaçant avant de mourir. Ce qui nous poussera à imaginer les pires sévices. La créature, on la doit à Hans Rudi Geiger, dont je vous ai parlé plus tôt. Je vous laisserai chercher sur internet des photos de ses œuvres. Son style est plutôt organique, voire morbide. Et on se rend compte que ses créations ont grandement participé à l'ambiance du film. Il en ressort quelque chose de malaisant, comme si on visitait un ossuaire à l'échelle d'une ville, mais dans lequel on y rencontrerait des habitants. Comme si la mort était vivante. Néanmoins, une chose peut paraître paradoxale. On ne voit pas beaucoup la créature, en tout cas pas dans son ensemble. Il y a des plans serrés sur sa tête, entre autres, mais elle reste souvent dans l'ombre, ce qui participe à l'impression de menace permanente qu'elle fait peser sur les protagonistes. Le vaisseau est mal éclairé. On est à milieu du Discovery de 2001, aux coursives blanches et baignées de lumière. Le Nostromo est un vieux vaisseau, à l'image des entrailles d'un bateau qui a eu plusieurs vies. Ce n'est pas de la SF propre sur elle. Et c'est bien plus souvent l'évocation qui marque, plus que la démonstration. Là, on devine son crâne. Là, sa gueule baveuse s'ouvre. Ou encore, on aperçoit subrepticement sa silhouette en ombre chinoise. Et comme on le verra plus tard, c'est quasiment un indice de la qualité du film. Moins on voit l'alien, mieux est le film. Toujours est-il que l'alien dessine tout l'équipage, ou presque. Seule survivante, Ellen Ripley, jouée par Sigourney Weaver, parvient même à tuer l'alien en projetant dans l'espace à partir d'une navette de secours. Le film est un succès, et qui dit succès, dit suite. Et là, on commence à transpirer. Bien souvent, les suites sont moins bonnes que l'original. On va voir ça de suite. Aliens, avec un S, sort en 1986, et il est signé James Cameron. Ripley, l'unique survivante du premier film, avec le chat Jones, est retrouvée en hibernation à bord de la navette. Il y a toutefois un hic. La navette a dérivé dans l'espace pendant 57 ans. D'où un léger décalage avec son environnement à son réveil. Elle apprend aussi que sa fille unique est décédée il y a 2 ans à l'âge de 68 ans. Mais ce n'est pas tout. Elle va devoir expliquer pourquoi elle a fait exploser l'installation remorquée par le Nostromo. Autant vous dire que son histoire de larve défonceuse de torse qui se transforme en animal féroce en quelques heures ne passe pas très bien. Elle passe tout simplement pour une folle furieuse. Et la liste des bonnes nouvelles ne s'arrête pas là. LV-426, la planète où le Nostromo s'est posé dans le premier film, eh bien elle est en cours de terraformation. Une colonie humaine de presque 200 personnes s'y est installée. Pour Ripley, c'est de la folie pure. Ce n'est plus introduire un loup dans la bergerie, c'est déposer la bergerie au milieu d'une meute de loups. Et comme par hasard, la colonie ne donne plus signe de vie. Un poil contrainte et forcée, Ripley décide d'accompagner une unité de Marines coloniaux et Burke, un représentant de la Wayland Yutani, pour découvrir ce qui s'est passé. Un petit mot sur la Wayland Yutani. Il s'agit d'un conglomérat d'entreprises dont le secteur d'activité est centré sur l'exploration, l'exploitation et la colonisation spatiale. On ne la voit jamais directement, elle est toujours simplement évoquée, mais sa présence se fait constamment sentir. Une bonne grosse compagnie libérale comme on les aime. Tout le monde semble bosser pour elle à quelque niveau que ce soit. Je vous ai dit qu'on ne la voyait jamais directement. Mais dans presque tous les films, elle est représentée physiquement par un androïde. Et c'est bien souvent par lui que les ennuis arrivent. Dans le premier film, il s'appelle Ash. Il semble en savoir beaucoup plus que l'équipage sur la planète LV-426. Et ça va pas super bien se passer avec Ripley. Dans Aliens, l'androïde se tient carreau. Mais la Wayland Yutani va intervenir par un autre biais. Mais on n'en est pas encore là. Voilà donc notre joyeuse troupe qui atterrit sur LV-426 et oh surprise, tout le monde a disparu. Enfin presque. Seule une petite fille, Newt, a survécu. Les colons sont retrouvés mais ils sont réduits à l'état de garde-manger pour une reine alien. Plus rien à faire pour eux. Et il est donc décidé de retourner sur le vaisseau qui les a amenés ici et de bombarder la colonie depuis l'espace. Mais vous vous doutez bien que ça va pas finir comme ça. La navette qui devait les ramener s'écrase et l'expédition doit se réfugier dans les locaux de la compagnie et attendre les secours en repoussant des attaques d'aliens. Entre-temps, Ripley est victime de l'attaque d'un facehugger qui s'avère être organisé par Burke, le représentant de la Wayland Yutani. Car le conglomérat pense trouver dans l'alien une formidable source de découverte dans le domaine de l'armement. Sans savoir qu'elle ouvre la boîte de Pandore à vouloir s'obstiner dans la capture d'un alien. Par chance, elle échappe à l'insémination. Là encore, quasiment tout le monde meurt. Là encore, Ripley s'en sort de justesse, en balançant là encore l'alien restant dans l'espace. En plus, la population des aliens sur LV-426 est décimée par l'explosion d'un réacteur nucléaire, réduisant à néant le risque alien. Et là encore, elle se met en hibernation pour rejoindre la Terre. Sauf que... C'est ainsi que commence Alien 3, ou Alien Cube, c'est comme vous voulez. Sorti en 1992, cet opus est réalisé par David Fincher. Sauf qu'il y a 9 d'aliens dans le vaisseau. Il sécrète de l'acide en plus d'un facehugger et ça provoque un incendie. Le dispositif d'hibernation est éjecté et s'échoue sur la planète Fiorina 161. Sur les trois survivants de l'épisode 2, Ripley, la petite fille et un soldat, seul Ripley se réveille. Mais elle se réveille dans un complexe minier pénitentiaire qui abrite 25 prisonniers, des criminels, violeurs et tueurs, qui n'ont pas vu une femme depuis de nombreuses années, ce qui va naturellement perturber un poil l'ambiance de reclus dans laquelle ils se sont volontairement murés. Ça ne va pas faciliter la tâche de Ripley, qui vient de découvrir qu'un alien a débarqué sur la planète en même temps qu'elle, et qu'elle doit les convaincre de la dangerosité de l'animal. Mais c'est pas tout. Elle doit se rendre à l'évidence. Le facehugger a inséminé un des passagers en hibernation. Et le passager, c'est elle. Et d'un embryon de reine en plus. Elle va donc devoir se battre sur deux plans. Organiser la lutte contre l'alien qui décime les occupants du complexe et trouver un moyen pour se débarrasser de son hôte. Au terme d'un jeu de cache-cache un poil laborieux, l'alien est tué. Reste l'autre, celui de l'intérieur. Ripley ne peut se le cacher plus longtemps. La mort de l'embryon passera forcément par la sienne. Elle met fin à ses jours en se jetant dans un bac rempli de métal en fusion. Voilà qui pourrait mettre un point final. Une histoire en trois actes, merci, au revoir. La seule planète où on a rencontré des aliens est ravagée. Le dernier spécimen vient d'exploser et l'embryon d'une reine a été englouti en même temps que Ripley dans du métal en fusion. Que demander de mieux ? Ah ben, qu'on s'arrête là et qu'on ne touche plus à rien. Sauf que... Alien, la résurrection, réalisée par Jean-Pierre Jeunet, sort en 1997. Nous sommes en 2379, 200 ans après les événements de Fiorina 161. Les progrès de la science ont permis le clonage de Ripley à partir d'échantillons retrouvés sur Fiorina 161. De Ripley, mais aussi de l'embryon de reine qu'elle portait en elle, pour que le successeur de la Weyland Yutani, l'USM, commence un élevage d'aliens dans un vaisseau, l'USM Auriga. Mais de façon pas très officielle, vous voyez. Vous devinez le schéma qui se met en place, et vous savez bien que ça va vite partir en sucette. Et en effet, les aliens, en plus d'être agressifs, sont loin d'être idiots, et ils vont s'enfuir pour semer la mort à bord du vaisseau. Ripley, avec l'aide d'un groupe de contrebandiers venus livrer des humains en hibernation de leur capsule pour qu'ils soient inséminés par les facehugger, tiens, ça me rappelle quelque chose, va traverser le vaisseau pour rejoindre la navette des contrebandiers. Et bien évidemment, ils se feront trucider les uns après les autres tout au long du parcours. Une fois échappés, les survivants se rendent compte qu'il y a un passager clandestin dans la navette. Décidément, il faudrait qu'ils pensent à mieux fermer leur vaisseau pour éviter les squatters. Vous commencez à connaître la mécanique de la saga, l'alien finira dans l'espace, d'une manière plutôt gore, je dois le reconnaître, mais originale. Alien Resurrection est un blockbuster, comme on dit. C'est un bon divertissement et on y retrouve vraiment la touche de Jean-Pierre Jeunet. Mais il y a un défaut. On voit trop l'alien. Dans le sens que dans certaines scènes, on le voit en entier et pendant un laps de temps trop long pour moi. C'est ce qu'on pourrait appeler l'échelle de divulgation. On va dire qu'elle va de 1 à 10. 1, on ne fait que le deviner, et 10, on le voit en entier, de plein jour. Plus le chiffre monte, moins le film me plaît. Dans les deux premiers films, il est entreaperçu seul ou en groupe, on a droit à des détails, mais on ne peut saisir l'entièreté du bestiau. On est à 1. Dans le 3, ça commence à être gênant. En plus, c'est le début des effets spéciaux numériques, et ça se voit. Là, on monte à 3 sur l'échelle de divulgation. Certaines incrustations sont proprement dégueulasses. Dans Alien Resurrection, on voit l'alien sur des scènes en plan large, et on le voit même nager. Les progrès des effets spéciaux font que ça passe mieux, mais bon, on monte encore d'un cran. Nous voilà à 4. En 2012, sort Prometheus, réalisé par Ridley Scott. Film numéro 5 de la saga, mais dont l'intrigue se situe bien avant le premier, en 2089 pour être précis. Alien premier du nom se déroule en 2122, je vous rappelle. Histoire, des archéologues trouvent des peintures rupestres qui représentent une constellation, peintures qui sont découvertes dans différents lieux à travers le monde. Pensant que c'est une invitation adressée à l'humanité par des extraterrestres, voire même nos créateurs, la société Wayland, organise une expédition pour découvrir ce qui nous attend là-bas. Je ne vais pas vous dévoiler la suite, ce sera à vous de le voir si vous le voulez. Juste mon point de vue, ce film est bourré d'incohérences. C'est un festival. Juste pour exemple, la première. Sur les peintures rupestres, on voit une constellation. Une constellation entière. Et l'expédition trouve directement la bonne planète, comme par hasard. Ce film, présenté comme l'origine de la saga, devait expliquer un paquet de trucs. Qui nous a envoyé l'invitation? D'où viennent les aliens? Mais il pose encore plus de questions qu'il n'y répond. Dans ce film, l'échelle de divulgation ne fonctionne que pour une scène, mais on tape un bon 6 sur 10. Le film suivant, Alien Covenant, qui sort en 2017, toujours réalisé par Ridley Scott, est encore plus foutraque que Prometheus. C'est dire le niveau. Les incohérences sont toujours là, et sur l'échelle de divulgation, là on est à 11. Je vous avais dit qu'au fur et à mesure, ça partirait en vrille. Le plus rageant peut-être, c'est qu'à un moment, c'était Neil Blomkamp qui était pressenti pour réaliser le cinquième film. Au vu des premières esquisses dévoilées, on aurait pu assister à une reprise en main de la franchise. Mais bon, on va pas réécrire l'histoire. La morale de l'histoire, ne jamais trop en dévoiler, garder une part de mystère. Paradoxal pour une des créatures les plus connues de la science-fiction. Comme quoi, de la subtilité ne peut pas nuire à la démonstration de force et au sentiment de crainte instillé dans les premiers films. Qui n'a pas ressenti un frisson en voyant un des personnages au premier plan attendant avec angoisse que le xénomorphe attaque et que l'on voit ce dernier descendre en silence de sa cachette au plafond juste derrière sa prochaine victime? Il est fascinant de se rendre compte que le hasard ou le destin ont fait se rencontrer les deux créateurs d'un monstre digne de cauchemars les plus sombres. Monstre qui en même temps nous fascine par son côté mystérieux et implacable, qui, sans rien dire, vous promet une vie raccourcie de façon particulièrement brutale. Et comme j'ai entendu une fois, rencontrer un alien n'est pas une situation d'avenir. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».